Marie-Christine Lanier, art et affinité. La parole n'est pas précisément mon domaine, mais je puis vous dire que j'accorde de plus en plus d'attention au contenu potentiel des mots. Au cœur de tout, il y a ces paroles mystiques de l'Évangile selon saint Jean, « Au commencement était le Verbe, car sans ce Verbe, rien n'existerait ». Je crois que cette conception devrait être communiquée non seulement dans nos mots, mais aussi dans chaque note de la musique, dans chaque pensée, dans chaque pierre. Toutes nos facultés s'enracinent dans cette pensée « Au commencement était le Verbe ». Arvo Pärt, compositeur estonien. Chez Pärt, la musique naît du silence et retourne au silence. Elle naît aussi de la parole. Arvo Pärt est convaincu que le texte renferme sa propre musique, une musique contenue dans le mot parlé. 90% de sa production est vocale. Il dit que la voix humaine est le plus beau des instruments de musique. Et lorsqu'il écrit de la musique vocale, sa devise est bien « Au commencement était le Verbe ». Ses recherches le mèneront jusqu'à écrire une missa syllabica, s'inscrivant ainsi dans la tradition de la musique polyphonique de la Renaissance, celle d'un Josquin des Prés par exemple. La pièce « Summa » dont vous allez entendre le début, composé en 1977, est emblématique de cette attention à la parole liturgique, car c'est la sonorité même de chaque syllabe, de chaque mot qui va déterminer les notes, les hauteurs de notes, etc. L'œuvre originale est pour quatre voix solistes. On a 364 syllabes en 5 minutes dans la version à 4 voix. Une note correspond à une syllabe. En réalité, Summa est un credo chanté en latin, mais en raison de la politique antireligieuse de l'époque soviétique, le titre de l'œuvre est codé. Lorsqu'il compose cette pièce, Pärt n'est pas encore passé à l'ouest. La version avec voix de Summa s'appuie donc sur le texte du Credo. Plus tard, Pärt composera une version instrumentale. Chaque mot de cette version chantée a cappella est d'une grande lisibilité et c'est crucial. Vous allez percevoir la fluidité de cette pièce. Et tout un mouvement giratoire, c'est comme une rotation, interprétée par The Hilliard Ensemble, disque Arbos, pour ECM 1987.
Substantia.
Bonjour. Chaque parole est chantée dans l'instant, mais paradoxalement, ce sont des paroles de l'éternité. Et Souma, avec son mouvement giratoire qui revient sur lui-même, c'est comme un cercle qui serait tangent à l'éternité. Il y a toute cette réflexion savante sur les nombres, les mathématiques, la correspondance sonore entre les syllabes et les notes dans la musique tonale, apparemment si simple d'Arvo Pärt, si simple que ceux qu'on appelle les élites la jugent simpliste. Et ce paradoxe, c'est ce qui la rend fascinante, car elle est à la fois très humaine, très humble d'apparence et sacrée. Aujourd'hui, quatrième volet d'un cycle de 4 émissions consacré à une approche de la musique d'Arvo Pärt en lien avec la rétrospective du peintre allemand Gerhard Richter à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 2 mars 2026. Tous deux ont en commun la recherche de quelque chose qui s'est perdu après deux guerres mondiales, l'un dans le domaine de la musique, l'autre dans les arts plastiques. Quelque chose qui a à voir avec une certaine forme de spiritualité et qui n'exprime pas nécessairement, qui ne s'exprime pas nécessairement à travers une religion. Je pense à Gerhard Richter. Participera à cette émission un autre compositeur majeur de la musique contemporaine, l'Américain Steve Reich. Alors, merci à Jean-Édouard et au musicien Stéphane qui réalise cette émission. En 2002, Richter reçut une commande prestigieuse, le chapitre de la cathédrale de Cologne lui proposa de concevoir un nouveau vitrail pour le transept sud, le transept le plus lumineux. La cathédrale gothique est vieille de plus de 800 ans. Elle appartient au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Toutefois, la commande était liée à une condition: représenter 6 martyrs contemporains. Richter parvint rapidement à la conclusion qu'il ne pouvait pas faire cette représentation figurative et il eut recours à ses nuanciers. Souvenez-vous, son premier nuancier date des années 60. C'était l'agrandissement d'un nuancier, donc un objet réel, qu'il voit dans un magasin de bricolage, quelque chose de concret. Mais l'œuvre finale, la représentation agrandie sur toile de ce qui n'était qu'un matériel pour peintre, avait abouti à de l'abstraction géométrique, c'est-à-dire des rectangles de couleurs, de la laque, juxtaposés sur un fond blanc. Quelques 30 ans plus tard, on a l'évolution logique du premier nuancier. 4900 couleurs. C'est une œuvre unique, dont les versions, les déclinaisons sont multiples. Une version est exposée à la Fondation Louis Vuitton. À la base, l'œuvre est composée de 196 panneaux. Ces dalles, ces panneaux, ressemblent à des damiers de 25 cases carrées et autant de couleurs. Alors, devant l'œuvre finale, on se demande combien il y a de couleurs si on ne lit pas le cartel, et c'est absolument impossible à déterminer. En fait, c'est un ordinateur, comme pour le vitrail de la cathédrale de Cologne, qui est intervenu pour déterminer l'emplacement de chaque couleur. Richter lui a donné 25 couleurs, et l'ordinateur a disposé dans les 4900 cases ces modules de 25 couleurs. Donc c'est un jeu sur votre perception. Puisque chaque couleur est environnée de différentes teintes, on perçoit par exemple un rose plus foncé qu'un autre alors que c'est le même, parce qu'il est entouré de couleurs différentes et plus sombres. Donc c'est un jeu sur l'œil, sur la perception. Et de toute façon, tout au long de cette rétrospective, la perception du visiteur est assez troublée. Il a fallu que votre œil, au premier niveau, s'habitue aux photopeintures floues. Il a fallu que vous compreniez pourquoi elles sont floues, ce n'est pas sans raison, mais c'est un peu étrange pour l'œil. On remarque aussi que tout est bien lisse dans 4900 couleurs, parce que ça n'a pas été peint au pinceau, mais avec, ne soyez pas choqués, ça a été peint au pistolet projecteur par les assistants de Gerhard Richter. Donc il y a de l'aléatoire dans ce procédé de création, mais cela reste très structuré. Ce que Richter détermine, c'est le format de l'œuvre finale. On peut avoir une œuvre unique, une version monumentale, ou bien une combinaison de plusieurs modules. Il détermine aussi les proportions de la grille abstraite. L'échelle peut augmenter. Et ce qui relève du hasard ou du lâcher-prise, eh bien, c'est l'apparition fortuite des couleurs. Il y a derrière cette œuvre vraiment spectaculaire l'idée que le nombre de combinaisons est pratiquement infini. Sur le site de Gerhard Richter, il y a 11 configurations. À la fondation, l'œuvre se déploie en 3 tableaux d'environ 4 mètres sur 4, plus 1 de format plus réduit. Donc c'est un kaléidoscope et cela nous renvoie au fameux vitrail de la cathédrale de Cologne. Alors, vous imaginez bien, ce vitrail n'a laissé personne indifférent. Il y eut des critiques, évidemment, notamment de l'archevêque de Cologne qui affirma que ce vitrail avait davantage sa place dans une église protestante ou une mosquée, puisque Richter avait refusé tout élément figuratif. En réalité, ce que le visiteur perçoit, c'est le surgissement de la lumière qui est en soi une métaphore de la présence divine et l'image d'accueil de ce cycle sur le site de Radio Courtoisie ou de RC.fr, ce sont les reflets de lumière sur les dalles de la cathédrale qui ont été choisis par Jean-Edouard. Chaque image d'accueil des émissions de Art et Affinité, chacune de ces images a été pensée en lien avec l'émission. Elle n'a jamais été choisie au hasard. On peut aussi évoquer une gigantesque mosaïque, mais en raison de sa trame, le vitrail a souvent été comparé à des pixels. Donc, je suis sur un axe extrêmement important qui fonctionne aujourd'hui au XXIe siècle. Soleil informatique. C'est la lumière du soleil qui vient traverser le vitrail, le vitrail étant une création humaine. Mais il y a eu l'entrée en jeu de l'informatique, de l'ordinateur. Et c'est cela qui fonctionne en tant que création numérique, ayant comme source, comme origine, un cerveau humain. Arvo Pärt, lui aussi, a reçu une commande de la cathédrale de Cologne en 1997 pour l'anniversaire de la cathédrale. Et il a composé une œuvre pour chœur a cappella, canon Pokajanen, en vieux slavon. Imaginez, même un russe aujourd'hui, je crois, aurait du mal à comprendre ce texte. « Je voulais laisser, dit-il, le mot choisir son propre son, exprimer sa propre ligne mélodique. » Après la verrière de la cathédrale de Cologne, intéressons-nous à une construction en verre et acier qui fait référence à une partie du travail de Richter peut-être plus difficile à appréhender, ce travail sur le verre, les vitres transparentes et ou réfléchissantes. Elle ponctue la rétrospective. C'est dès le milieu des années 60 que Richter intègre ce matériau, le verre, pour ses vertus réfléchissantes. 6 panneaux verticaux. Cette œuvre, c'est une sorte de cage de verre, vous l'avez sur l'écran de rc.fr. C'est une œuvre assez sévère, froide, déconcertante, minimale. Les panneaux sont placés à la verticale dans une structure en acier gris qui les retient. Et dans ces plaques de verre, on aperçoit le nuancier monumental de la Fondation Louis Vuitton qui se reflète et on se voit aussi dedans. L'objectif de ces œuvres en verre, l'un des objectifs, c'est de mettre le visiteur à l'intérieur de l'œuvre. À l'entrée de ce dernier niveau de la Fondation, il y a une autre sculpture en verre, 11 panneaux de verre superposés et inclinés contre le mur de façon assez désinvolte. Et ces plaques de verre sont traitées avec un film réfléchissant. Et comme elles sont superposées, votre image y est encore plus décomposée. Elle vous semble venir de très loin ou bien s'éloigner, et vous êtes comme une ombre. Les sculptures en verre de Gerhard Richter traitent de la réflexion, du reflet. C'est la partie réflexive de son travail. Surtout, ce sont là encore des jeux de vision. Et dès que l'on parle de jeux de vision, on entre en plein, me semble-t-il, dans la démarche de l'artiste. J'ai employé l'adjectif « minimal » à propos de la structure en verre de Gerhard Richter. Richter n'est pas un minimaliste au sens strict du terme, je veux dire au sens américain, qui est le seul qui existe à mes yeux. Arvo Pärt non plus, le compositeur a refusé cette affiliation. Le style Tintinnabuli de Pärt procède de l'intrication entre deux voix ou deux parties. Il y a la ligne mélodique d'une part et la triade Tintinnabuli, c'est-à-dire un accord de trois notes. Un troisième élément essentiel vient s'y ajouter, le silence, qui crée un espace dans lequel la musique peut résonner. C'est apparemment extrêmement simple, n'est-ce pas? Mais c'est le haut de l'iceberg. En réalité, cette musique est d'une complexité infinie. Et l'écriture en est très mathématique. Chaque note de chacune des lignes est interdépendante des notes de l'autre ligne, selon des structures mathématiques extraordinairement complexes. Nous allons écouter le début de Spiegel im Spiegel, Miroir dans le miroir, une œuvre pour piano et violon composée en 1978, peu de temps après qu'Arvo Pärt ait rompu avec 8 années de silence, un silence qu'il s'était imposé à lui-même. Et cette pièce musicale est comme un jeu de miroir, là aussi, au reflet infini. Le titre, Miroir dans le miroir, est une allusion au reflet sans fin de miroir, de deux miroirs qui se feraient face. Et en cela, cette pièce fait écho aux sculptures en verre de Gerhard Richter. Les 11 panneaux superposés de verre, par exemple, ce sont des profondeurs gris-vert que votre regard traverse. Et alors vous rencontrez votre ombre tout là-bas, tout au fond. Et puis le mouvement s'inverse et fait retour sur vous-même. Techniquement, Spiegel im Spiegel est une construction mathématique des plus épurées, avec des lignes mélodiques ascendantes, suivies de phrases en miroir. Mais quand on l'écoute, oh mon Dieu, mais quand on l'écoute, c'est juste une berceuse. Il y a le balancement hypnotique du motif continu qui la structure. Les phrases qui montent et descendent sont continuellement comment dirais-je, elles sont continuellement inversées. Et il en émane une émotion inversement proportionnelle à la simplicité du matériau mis en œuvre. Interprété par Renaud Capuçon et Guillaume Bellhomme pour Warner Classics, je vous laisse écouter le début de cette pièce. Alors, écoutez-moi bien, assumons de revendiquer une écoute non savante pour une musique très savante.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
En résonance, un portrait de famille de Gerhard Richter, une œuvre figurative, sans la nommer Richter, présente Sabine, son épouse, en femme lisant, c'est le titre du tableau, une œuvre abstraite. Une œuvre figurative, je suis en train de la regarder, une œuvre figurative, un portrait de famille, et elle fait ici référence à Vermeer. Vous avez un Vermeer sur l'écran de rc.fr, et je pense que Richter cherche la possibilité de renouer avec une tradition artistique à laquelle il se confronte. Il devait bien connaître la liseuse à la fenêtre de Vermeer, qui fait partie des collections nationales de la ville de Dresde, sa ville natale. Dans les deux tableaux, on voit une jeune femme blonde occupée à lire. À la lecture d'une lettre, Richter substitue celle d'un magazine. Les deux lectrices sont présentées de profil, mais Richter a cadré Sabine dans un format très resserré. Il élimine le mur de gauche avec la fenêtre ouverte du Vermeer, ainsi que la nature morte du premier plan. Une lumière claire tombe du haut de la pièce, une lumière qui baigne la nuque, les cheveux de la jeune femme, ainsi que le magazine blanc très habilement placé devant une ouverture sombre, estompée. Et c'est un sentiment de profonde intimité, une impression de calme contemplatif qui émane de cette jeune liseuse, entièrement abîmée dans sa lecture. Cette scène de lecture a été très bien accueillie, voyez-vous, par le public, tout comme les portraits de la fille aînée de Richter, Betty. Je veux dire qu'il y a sans doute cette surprise de la part du public, par-delà la virtuosité du peintre, par-delà la finesse, le léger flou, cette surprise qu'une telle œuvre puisse émaner de la peinture contemporaine. Richter, bien sûr, intervient en fin de chaîne. Il transforme, et comme l'avait d'ailleurs fait Vermeer au XVIIe siècle, il transforme ce qui venait avant lui par soustraction, par épuration. Il retire, il enlève, mais surtout, il renoue, c'est une œuvre de 1994, il renoue avec une grande tradition. Et le vrai sujet de cette peinture, c'est l'intimité et ce qu'il y a d'émouvant dans l'intime. Le directeur de la National Portrait Gallery de Londres, à propos de ce portrait, a eu ces mots « a private and closed experience ». Une expérience de ce qui est très intime. Autre portrait de famille, Ella, une huile sur toile de 2007, c'est le portrait de la fille cadette de Richter, une figure tout aussi intime et fragile que celle de femme lisant, qui est d'ailleurs sa mère. Son père la photographie lors d'un trajet en train. La fillette est absorbée par la lecture d'un livre qu'on ne voit pas, confère la dentelière de Vermeer. Donc j'imagine que Gerhard Richter a aussi beaucoup regardé la dentelière. Donc on ne voit pas son livre. Son visage et ses yeux sont baissés sur ce livre invisible. Le cadrage est très resserré. Elle ne regarde pas le photographe, donc son père, ni ne pose pour lui. Et dans ce portrait de petit format, Richter utilise à nouveau la technique de l'estompage. Alors, le visage est auréolé par la lueur rose du pullover, par la teinte chaude, rouge-brun de l'appui-tête. Le rose, le vert du col du pull sont comme brouillés. Et l'estompage a unifié le délicieux visage de chaton de la fillette, l'a rendu plus voilé, plus détaché. Ce petit portrait est un contrepoint à deux tableaux de très grand format intitulés « strips », c'est-à-dire bandes, rayures, accrochées à côté et qui proposent une expérience visuelle absolument singulière. N'oubliez pas, la petite Ella, elle me fait d'ailleurs penser à un sorbet à la framboise, la petite Ella a été photographiée dans un train. Et c'est peut-être, c'est ce que je me suis dit, le lien, la raison de cet accrochage déroutant à côté des deux grandes structures abstraites qui sont en fait comme des lignes colorées horizontales qui filent comme des rails. Je peux me tromper. Strip. Dans la série 4900 couleurs, souvenez-vous, qui introduit l'aléatoire, le hasard dans l'emplacement des couleurs, Richter avait eu recours à l'ordinateur. Et ce travail annonçait donc cette série de bandes, les strips, une série qui est produite numériquement, dans laquelle le hasard joue également un rôle crucial, mais toujours à l'intérieur d'un cadre fixé par Richter. Alors observons l'un de ces tableaux que vous avez sur l'écran de rc.fr. Gerhard Richter est parti d'une petite toile abstraite de 1990. Elle est exposée à la Fondation Louis Vuitton dans la salle où se trouve le cycle de Sabine Moritz avec enfants. Il aime bien cette abstraction parce qu'il trouve que les couleurs sont réparties de manière homogène sur la toile. 21 ans plus tard, il prend cette abstraction en photo et il s'amuse à en découper le scan grâce à un logiciel informatique jusqu'à arriver à un nombre de divisions pharaoniques, 8190 bandes. Ce qui fait qu'on pourrait presque parler de peinture de l'ordre de l'invisible. Mais à l'origine, son projet, c'était d'utiliser un fragment d'une première œuvre abstraite, de le copier-coller en miroir, de créer donc un motif et de le répéter en bande. Et il voulait faire cela pour une tapisserie. Un livre fut publié, intitulé « Motif », en anglais « Patterns ». Ensuite, Richter sélectionne une bande, hop, et il va l'étirer sur son ordinateur jusqu'à 4 mètres de long. Sauf que, une bande, il n'était pas vraiment satisfait du résultat. Pour obtenir l'œuvre finale que vous voyez, Strip, il a fallu utiliser entre 10 et 12 fragments du tableau abstrait initial et procéder à ces subdivisions énormes, au final, en divisant la surface en 8190 bandes horizontales, ça donne des bandes qui sont larges de 0,08 mm. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'infime. Richter a aussi changé l'emplacement des couleurs. Donc ici, c'est comme s'il avait repeint, en fait, c'est comme s'il avait repeint numériquement un tableau abstrait peint à l'huile 20 ans auparavant. Enfin, ce ne sont pas des peintures, mais des impressions. Si on s'approche, à la différence de ce que l'on a vu jusque-là, les lignes sont très nettes. Et cela trouble aussi un peu la perception. Je veux dire, c'est déstabilisant de regarder ces grandes lignes. Quand on traverse la salle, c'est un peu bizarre à regarder. C'est étrange. Les rayures colorées horizontales glissent, échappent à votre regard. Et selon le lieu où l'on se trouve, la fuite des lignes colorées s'accélère fortement vers la gauche ou bien vers la droite, et il n'existe en plus pas d'emplacement idéal devant ce tableau. Et donc, le mouvement devient le motif central de ces deux grandes œuvres qui, en plus, se font face. Or, tout part d'un minuscule fragment traité à l'ordinateur, et j'ajoute, issu d'un cerveau humain. La finesse des lignes aurait été impossible à exécuter manuellement et l'emplacement des couleurs est totalement déterminé par l'ordinateur. Bien. En lien avec les strips de Gerhard Richter, introduisons un autre compositeur contemporain, l'américain Steve Reich. C'est un alchimiste du son. Pourquoi ? Le motif sonore se transforme en un autre et au même moment. c'est toujours le même. Donc c'est exactement le même effet que lorsque vous êtes devant Strip. Tout se passe, tout ce qui se passe est toujours le même et toujours différent. Mais cela n'a absolument rien à voir avec ce que l'on connaît de la musique du XXe siècle, et je ne parle même pas de la musique classique. Il n'est peut-être pas sans intérêt de savoir que Reich a exactement les mêmes références qu'Arvo Pärt en matière de musique médiévale. Chez lui aussi, la polyphonie naissante et la musique de l'école de Notre-Dame de la fin du XIIe, début XIIIe, notamment la musique du compositeur Perrotin, donne les fondements d'un processus pour une musique contemporaine à partir d'un étirement, là aussi, un étirement, mais cette fois-ci, de la ligne musicale. Steve Reich est né en 1936 à New York. Different Trains, en français, des trains différents. C'est une œuvre majeure pour quatuor à cordes et bandes magnétiques composée en 1988. Elle est divisée en trois mouvements. Amérique avant la guerre, Europe pendant la guerre que nous entendrons dans 15 jours pour l'épilogue de ce cycle de quatre émissions, et puis il y a un troisième mouvement après la guerre. Different Trains, c'est la seule œuvre autobiographique de Steve Reich. Il y a son expérience d'enfant de divorcé dont le père vit sur la côte Est à New York et la mère sur la côte ouest à Los Angeles. Et il devait fréquemment prendre le train pour aller d'une ville à l'autre pendant les vacances scolaires, accompagné de sa gouvernante, une certaine Virginia Mitchell. Cela durait 4 jours et c'était des voyages merveilleux, électrisants. De longues lignes horizontales, c'est-à-dire les rails de la voie ferrée aux États-Unis. Different Trains, c'est aussi la première pièce de Reich utilisant, c'est important, utilisant le discours parlé comme matériau musical. La voix parlée, je veux dire celle de témoignage authentique. Il veut aller au-delà de l'interprétation par un chanteur d'un texte écrit. Quand un compositeur confie un livret à un chanteur, le chanteur va interpréter. Mais Steve Reich veut aller vers une vérité musicale de plus en plus pure, essentielle, qui part du son de la voix humaine et en plus une voix qui dit vrai. On va entendre la gouvernante de Steve Reich et un employé des wagons-lits, un certain Lawrence Davis. La mélodie, alors la mélodie et l'harmonie sont générées à partir de fragments de leurs paroles. Et avec les répétitions, cela exerce une étrange fascination. On va rentrer au cœur de la voix humaine. Ces deux matériaux sonores, ces deux voix humaines sont intégrées dans la bande préenregistrée qui sert de support à l'œuvre. S'y ajoute un troisième composant, les sons de train américain des années 1930 et 40. Vous allez entendre un montage que Stéphane a réalisé pour vous de trois sons différents. Les sons de trains américains, donc je vous en parlais, des années 1930-40, mais plus précisément les sons des chariots sous les wagons. Et puis viendra le sifflet de la locomotive et la cloche d'avertissement.
Thank you.
Le quatuor à cordes en live vient doubler le son des bogies. Les bogies, ce sont les chariots sous les wagons. Donc le son des bogies du train tout le long du mouvement. Donc, un fond de pulsation, je crois que c'est le terme à employer, des pulsations qui projettent la locomotive en avant. Et c'est une pulsation inexorable. Cela va donner l'idée du roulement de la locomotive. Steve Reich est un batteur. Il emploie un rythme de batterie, ici. Enfin, dans le quatuor à cordes, l'alto introduit la voix de femme. Et quand c'est une voix d'homme, c'est le violoncelle qui l'introduit. Ces deux instruments correspondent à la tessiture des voix qu'on va entendre. Donc il y a, pour résumer, la recherche d'une élongation sonore régulée, ce que Reich appelle une augmentation, et un effet de répétitivité par symétrie. C'est la version de référence que vous allez entendre, le Quatuor Chronos chez Nonesuch, enregistré en 1989.
From Chicago to New York, from Chicago to New York, from Chicago, from Chicago, from Chicago to New York. From Chicago to New York, from Chicago to New York, from Chicago, from Chicago to New York, from Chicago.
Gerhard Richter poursuit ses recherches vers l'infiniment petit. Dans la série au titre informatif Silicate, il essaie de représenter quelque chose d'invisible pour l'œil humain. Un jour, il feuillette un magazine scientifique, tombe dans cette revue sur une photo de presse, une visualisation produite par un microscope électronique montrant la structure moléculaire de la silice. C'est l'un des éléments les plus répandus sur Terre, mais invisible à l'œil nu. Il peint cette structure moléculaire déjà grossie au microscope. Il fait un jeu d'échelle avec la technique caractéristique que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire utilisation d'un rétroprojecteur avec agrandissement, peinture à l'huile, et il met son fameux flou avec de la térébenthine. Donc, on retrouve en fait cette idée de Richter que chaque peinture est à la fois abstraite et figurative. Silicate, c'est une peinture abstraite au sens où elle est incontestablement différente de tout ce que je connais dans la réalité, mais elle est aussi figurative car elle est ancrée dans la réalité malgré tout. Elle est extraite de la réalité. Ce tableau n'est rien d'autre que la reproduction très agrandie d'un infime fragment de la réalité. Et c'est aussi un all-over, c'est-à-dire que le motif pourrait continuer sur les quatre côtés du tableau. Puis, ces images qui étaient très contrôlées, très scientifiques, précises, ne le satisfont plus et il revient au procédé du racloir avec un cycle extraordinaire sur Cage, John Cage, une série donc d'un genre très différent. Un cycle de 6 peintures. Il voue une grande admiration au compositeur américain John Cage qui est décédé en 1992. Il écoutait de la musique de Cage en peignant ce cycle. Les 6 toiles furent accrochées au mur et peintes en même temps, simultanément. On sait aussi que Richter a donné le titre de la série après avoir réalisé toutes les œuvres. Alors, quels sont les liens entre Gerhard Richter et John Cage? Je vous rassure, vous n'allez pas entendre du John Cage, du moins aujourd'hui. Il se réfère à John Cage qui questionnait beaucoup le hasard. Et de fait, lorsque Richter peint avec le racloir, il n'a aucune idée précise des quantités exactes de peinture qui vont être retirées, raclées, révélant de manière tout à fait aléatoire les couches sous-jacentes. Le racloir, c'est un processus d'addition, de soustraction ou destruction. Les toiles sont très raclées, comme grattées, il n'y a pas d'empattement, c'est un palimpseste. Donc la question de l'aléatoire est un des points communs entre Richter et Cage. L'autre point, c'est évidemment le silence. Un silence n'a de sens dans la musique classique qu'après un grand crescendo. Un silence ne vient pas au début d'une œuvre classique, du moins à ma connaissance. Dans la musique de Cage, un son a une durée de vie. Et avant de mourir, avant de rentrer dans le silence, Cage fait en sorte que le son soit vraiment senti par vous. Voilà, donc ce cycle est un hommage au compositeur à plus d'un titre. Et enfin, le mot cage, qui veut dire cage, évoque aussi l'isolement volontaire de Gerhard Richter. C'est un peintre classique d'atelier qui peint à l'huile en général, dans son atelier, loin du bruit. Alors, on termine avec de la musique. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'à la même époque, dans des pays très éloignés, des circonstances très différentes, Arvo Pärt et Steve Reich se sont tournés vers la musique ancienne au cours de leurs recherches et notamment l'école de Notre-Dame de Paris. À la charnière des XIIe et XIIIe siècles, la polyphonie naissante, nous avions commencé à le voir, va donner les bases donc d'un processus pour une musique contemporaine. Il y a 15 jours, nous avions vu que les 2 premiers mots du graduel de Noël, Viderunt omnes, omnes tous viderunt ont vu, cela durait 7 secondes en plein chant. Et 1 minute 15, Lorsque Maître Léonin avait introduit une seconde voix, les vocalises d'une voix supérieure, vers 1200, on va passer d'une polyphonie à deux voix à des pièces à trois ou quatre voix avec un autre compositeur, Perrotin, qui veut dire Petit Pierre, c'est un prénom, Perrotin, surnommé Perrotin le Grand. C'est-à-dire qu'il va superposer davantage de voix et étirer, je retrouve le verbe étirer, étirer les lignes musicales par-dessus la base qu'est le plein chant. Le plein chant, les mots videunt omnes, c'est une autorité au Moyen-Âge. C'est une autorité, c'est la souche, la racine, on n'y touche pas. Mais on va l'embellir et on appelle cette voix la teneur parce qu'elle tient tout l'édifice. C'est une voix qui tient la note longuement en étirant le son. Et Perrotin place les trois autres voix par-dessus, chacune ayant un rythme différent. Et ce sont trois voix qui vocalisent. Alors, on va écouter Perrotin pendant exactement, je ne triche pas pour une fois, le même laps de temps, 1 minute 15. Et les chantres, prêtez attention, les chanteurs n'auront chanté que vidé du viderunt imaginé. Alors, imaginez ou plutôt visualisez les lignes étirées des strips de Gerhard Richter et les rails de Steve Reich dans Different Trains. Donc on écoute Perrotin. Alors l'émission, on réunit tout le monde, on écoute deux très courts extraits d'Arvo Pärt et de Steve Reich qui ont assimilé le chef-d'œuvre polyphonique de Perrotin le Grand. D'abord Arvo Pärt, puis Steve Reich. Au revoir. Thank you.
Vous venez d'entendre Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier. Émission préenregistrée le 14 février 2026 et diffusée pour la première fois jeudi 19 février 2026 de 10h à 11h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.